France Info.
Il y a eu le coup de tonnerre de l'été dernier, la démission du chef d'état-major des armées pour cause de désaccords budgétaires avec le président de la République, défiance, puis la méfiance au moment des vœux d'Emmanuel Macron à Toulon le mois dernier. La confiance entre l'Élysée et l'armée va peut-être revenir avec la loi de programmation militaire présentée en Conseil des ministres ce matin. C'est le texte qui fixe les objectifs et les moyens pour la période 2019-2025. Le détail précis n'est pas encore connu, mais on sait que sur cette période, la France va consacrer 295 milliards d'euros à la défense. Elle va lancer des études aussi pour trouver un successeur au porte-avions Charles de Gaulle. On va voir ce que pensent de tout cela nos invités. Jacques Bessy, bonjour.
Bonjour.
Colonel de gendarmerie, président de l'association de défense des droits des militaires. Le général Vincent Desportes est en ligne avec nous. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ancien directeur de l'école de guerre, Franck Cognard, spécialiste des questions de défense à France Info. Bonjour à vous, Franck.
Bonjour.
On peut commencer avec vous, Franck, puisqu'Emmanuel Macron a déjà donné les contours de cette loi de programmation. Il la souhaite, dit-il, à hauteur d'homme. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que sur les 300 milliards d'euros qui sont programmés jusqu'en 2025, dont seulement 200 milliards, entre guillemets, 200 milliards simplement sont budgétés réellement jusqu'en 2023, ça veut dire que sur ces 300 milliards, il y en a 110 qui sont consacré aux conditions de vie et aux des militaires et aux conditions d'exercice de leur métier. Les conditions de vie, c'est quoi? C'est le logement. On sait qu'il y a beaucoup de logements qui sont dégradés, qui sont pas assez nombreux. C'est les places en crèche, par exemple. C'est aussi la mobilité du conjoint. Donc, il y a cette partie-là. Puis, il y a la condition d'exercice. Ce sont, par exemple, les nouveaux triers. C'est l'équipement du soldat. Normalement, 100% des soldats en OPEX vont être équipés du dernier trier d'ici 2020.
Opération extérieure.
Évidemment. 55 000 nouveaux gilets pare-balles aussi. C'est aussi l'accélération, par exemple, du remplacement du FAMAS, le fusil d'assaut des soldats français par un fusil allemand. La modernisation des équipements aussi, ça comprend tout ça, ce que le ministère appelle le renouvellement des capacités. C'est quoi? C'est par exemple les VAB, les VAB, les véhicules de l'avant blindé, les transports de troupes. Ils vont être remplacés un peu plus tôt que prévu, un peu plus vite que prévu par des nouveaux modèles qu'on appelle les Griffons et dont la moitié devrait être livrée normalement selon cette loi de programmation militaire d'ici 2025. On parle aussi des ravitailleurs, les pétroliers ravitailleurs pour la marine. C'est un truc tout simple, mais c'est que ces pétroliers ne sont plus aux normes aujourd'hui. Ils n'ont qu'une simple coque. Ils ne devraient plus voguer si c'était des navires civils. Donc il y a ce renouvellement-là, le renouvellement des avions ravitailleurs aussi, nouveaux sous-marins, nouvelles frégates, etc.
D'accord.
Si je vous résume ça en un chiffre, c'est 34% de plus, nous dit le ministère des Armées, pour l'augmentation des crédits précédents dans cette loi de programmation militaire par rapport à la précédente.
Donc à hauteur d'homme, ça veut dire le quotidien des soldats doit être amélioré. Jacques Bessy, je suppose que c'est un point important à vos yeux.
C'est un point extrêmement important parce que ce ne sont pas les murs qui font les remparts de la cité, mais les hommes, comme a pu le dire un philosophe grec autrefois. Et je partage pas tout à fait l'analyse de Franck Cognard, parce que je pense que cette loi de programmation militaire, c'est un peu le catalogue de la redoute. Donc on veut faire plaisir.
On y trouve de tout.
L'équipement individuel de l'armée de terre, des soldats qui sont sur le terrain, ça c'est une très bonne chose. En revanche, sur les conditions de vie, je suis très très sceptique. Bon, que la loi de programmation militaire, c'est un peu comme le plan. Autrefois, une ardente obligation, qui peut, de toute façon, à laquelle on peut déroger.
D'accord. Général Vincent Desportes, que pensez-vous de ce que nous a décrit Franck Cognard en termes, effectivement, d'amélioration du quotidien des soldats?
Bon, mais je crois que, vous savez, le verre, on peut voir comme on veut, mais je crois que ce matin, il faut quand même le voir comme à moitié plein. C'est-à-dire que des tas de bonnes choses ont été décidées, mais que néanmoins, on n'est pas exactement encore là où il faudrait aller. Mais il est clair que nous étions dans une situation très difficile de profond désarmement des armées, après plus de 25 ans de diminution des budgets. Un coup a été porté à cet délabrement a été arrêté et on est vers une remontée positive. Donc je crois qu'il faut s'en féliciter, mais continuer à être à faire attention parce que, comme le dit Monsieur Bessy, nous ne sommes pas au bout de nos affaires. Il faut que vos auditeurs comprennent qu'au fond, depuis 25 ans, tout ce qui ne défilait pas sur les Champs-Élysées le 14 juillet a été sacrifié et que là-dedans on trouve un tas de trucs que désormais il faut remettre en place à tous les niveaux, dans la vie quotidienne et dans les capacités d'entraînement, etc.
Général Desportes, chiffre 295 milliards d'euros, ça semble évidemment très très important. Est-ce que c'est le cas à vos yeux ou pas? Est-ce qu'il faut le relativiser un petit peu ce chiffre?
Non, non, mais il est évidemment important. Il est évidemment important. D'accord. Et il est important, mais le problème est, c'est que pour l'instant, en gros, il va servir à restaurer l'armée. Pas beaucoup plus, si vous voulez. Et c'est dans la loi de programmation militaire suivante qu'on pourra véritablement progresser. Là, on remet à plat les affaires, mais il fallait absolument ça, parce que pour deux raisons. La première raison, c'est que les nations ont un devoir vis-à-vis de leurs soldats. Là, il commence à être rempli, et que d'autre part, nous sommes dans un monde de plus en plus dangereux, et il faut que la France retrouve des capacités de défense à la hauteur des menaces.
Franck Cognard, vous voulez dire un mot ?
Je voulais rajouter qu'il y a les chiffres bruts qui nous sont communiqués par le ministère, mais après, il y a l'interprétation qu'on en fait, et celle du général Desportes est juste, c'est-à-dire que l'armée ne va pas avancer, elle va rattraper un retard qui était accumulé depuis au moins 2008, c'est-à-dire quand on a taillé dans les effectifs et dans les budgets des armées. En gros, les armées françaises vont se moderniser, elles vont consolider quelque part leur modèle d'aujourd'hui. Elles auront à peu près d'ici 2025 le même nombre d'avions, le même nombre de navires, mais ceux-ci seront simplement plus modernes. Et si on parle des hélicoptères aussi, par exemple, le taux de disponibilité aujourd'hui d'un hélicoptère, c'est 25% dans les armées françaises. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose de beaucoup plus disponible. Donc c'est vraiment un retard à rattraper. Cet argent va surtout servir à ça.
Jacques Bessy, le général Desportes nous disait le monde est plus dangereux aujourd'hui. Ça veut dire que les missions des soldats sont plus difficiles, plus contraignantes.
Bien entendu,
il y a quelques années.
Bien entendu. Enfin, je veux dire, en plus, il y a un impératif technique. Enfin, je veux dire, on fait un peu de la guerre chirurgicale. Hein. Donc, il faut effectivement avoir des gens bien formés, des gens qui restent dans l'armée. Or là, il y a un vrai problème à la fois de recrutement, et je pense à l'armée de terre, et de fidélisation.
Parce que ça n'est pas attractif, c'est ça ?
C'est pas attractif. Il y a un mode de management sur lequel l'armée n'a pas réfléchi.
Vous parlez de dialogue social dans l'armée. Vous soulevez ce point. Vous dites qu'il faut travailler là-dessus.
Ah oui, bien sûr, il faut un dialogue social. Malheureusement, le dialogue social, il est complètement brouillé actuellement. C'est-à-dire que vous avez un article du Code de la Défense qui dit « Le chef doit s'occuper des intérêts de ses subordonnés et rendre compte ». Bon, mais le chef, il a une mission en même temps. Donc, il est un peu en conflit d'intérêts. Ensuite, vous avez un Conseil supérieur de la fonction militaire, 79 membres. Comme c'est compliqué, on a fait un groupe de liaison qui a 18 membres, qui est censé dialoguer ou être reçu par le président. Vous avez les associations professionnelles nationales de militaires qui ont été créées à la suite de la condamnation de la France en 2014, d'ailleurs à la requête de la DEFDROMIL. Et puis enfin, vous avez un organisme qui est le thermomètre de la situation sociale, qui s'appelle le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, et qui lui, présidé par un conseiller d'État, est là pour dire que la température est toujours à 37,2, que ça va pas si mal que ça. Et donc là, il y a une véritable réflexion à faire sur la fidélisation, et puis permettre aussi aux militaires de quitter l'armée quand ils ont trouvé quelque chose.
Jacques Bessy, Vincent Desportes à la table du 12-14 de France Info. On reprend cette discussion dans deux minutes.
France Info.
La loi de programmation militaire présentée aujourd'hui en Conseil des ministres pour redorer un peu le blason de nos armées. Nous en parlons avec Jacques Bessy qui préside l'Association de défense des droits des militaires, le général Vincent Desportes en ligne avec nous, Franck Cognard, spécialiste des questions de défense à France Info, et Thomas Snegaroff nous a rejoint. Bonjour Thomas.
Bonjour Hercine.
Alors je voulais d'abord, général Desportes, vous entendre sur l'idée du dialogue social que soulevait Jacques Bessy à l'instant. Est-ce que ça vous semble important d'instaurer cette dimension-là dans l'armée française ?
Alors, absolument. Maintenant, il faut être extrêmement prudent. La limite, c'est le syndicat. Hein. Toutes les armées syndiquées que nous connaissons sont des armées qui ont perdu toute leur capacité opérationnelle. Donc, on voit bien que le dialogue social, alors M. Bessy sera probablement pas d'accord, mais doit respecter la voie.
Il sourit beaucoup, là, en vous écoutant.
Oui, mais bien sûr, mais qui a rendu le meilleur service aux armées, c'est le général de Villiers. C'est-à-dire qu'en démissionnant le 19 juillet dernier, c'est-à-dire qu'il a joué son rôle à la fois de militaire et chef syndical. C'est comme ça. Et donc c'est bien parce que lui a eu le courage de parler, de dire les choses, que M. Macron a pris conscience de ces problèmes-là et s'est tenu aux promesses qu'il avait fait auparavant. Et donc c'est la hiérarchie militaire dans son ensemble qui doit avoir absolument conscience de ses devoirs en tant que représentant de ses collaborateurs. Toutes les armées du monde qui fonctionnent sont organisées comme ça. C'est très important de ne pas aller plus loin. Encore une fois, toutes les armées syndiquées sont des armées qui ont perdu toute capacité opérationnelle.
Jacques Bessy.
Mon général, cher camarade, qu'a fait la hiérarchie pour supprimer, par exemple, la durée de 2 ans qu'on exige du PACS des militaires pour qu'ils soient indemnisés au taux marié. Qu'a fait la hiérarchie militaire pour mettre fin au scandale Louvois, hein, qui devrait y avoir un moratoire depuis longtemps. On continue de poursuivre des militaires et d'anciens militaires pour des traversées hypothétiques. Et là, je n'ai pas vu de généraux s'engager là-dedans. S'engager sur des crédits parce qu'on n'achète pas le véhicule ou l'avion ou le bateau, ok, ça c'est facile. Hein. Mais en revanche, sur la condition militaire individuelle sur le terrain, eh bien c'est autre chose.
Allez, un dernier mot là-dessus, Général Desportes.
Non, mais Monsieur Béchut a parfaitement raison. Les militaires doivent avoir le sentiment de leur devoir d'expression sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que l'expression des militaires doit être reconnue et remise à la place où qu'elle doit avoir et qu'elle a perdue depuis maintenant 2 générations, depuis 1960.
Bien, je me tourne maintenant vers Thomas Snegaroff. Thomas, on voit que l'armée est une priorité aujourd'hui dans le budget de la France. Elle redevient une priorité, en fait.
Ouais, le général Desportes parlait de 25 ans, c'est un peu plus. Hein. Une information un peu perdue. Au milieu d'un journal de France Inter, au début du mois de juillet 1990, un journal de 8 heures présenté par Gérard Courchel.
Le Premier ministre et Pierre Bérégovoy seraient d'accord pour freiner les dépenses militaires dans le budget 91. Michel Rocard et son ministre de l'économie essaient ainsi de dégager des crédits supplémentaires pour les grandes priorités du gouvernement. La recherche, le logement, la justice et surtout l'éducation nationale. Lionel Jospin demande par exemple la création de 15 000 postes dans l'enseignement.
Information rapide, une brève comme on dit, mais après un très long débat.
Oui, très long, très intense. Un débat qui oppose bien sûr l'armée et son ministre Jean-Pierre Chevènement, très hostile à toute baisse, au Premier ministre Michel Rocard et à son ministre de l'économie et des finances, on l'a entendu, Pierre Bérégovoy. Alors selon ces derniers, le contexte ne justifie plus de telles dépenses militaires. Le contexte, c'est quoi? Le mur de Berlin est tombé et avec lui l'ensemble des démocraties populaires d'Europe de l'Est. Et dans ses décombres, le pacte de Varsovie, cette alliance militaire de ces pays de l'Est avec l'URSS, vit ses dernières heures. Bref, l'essentiel des dangers qui pesaient sur la France disparaissant, les dépenses militaires peuvent diminuer et on l'a entendu dans l'archive, se reporter sur d'autres postes budgétaires, dont l'école.
Et cette baisse, elle va continuer pendant une dizaine d'années.
Oui, toute la décennie 1990, c'est l'entrée dans un nouvel ordre mondial dans lequel la stabilité et la paix est garantie par les institutions internationales, l'ONU et l'OTAN, une parenthèse sous forme d'illusion, l'illusion de la fin de l'histoire théorisée par Francis Fukuyama en 1992, fin de l'histoire parce que fin des conflits qui sont le moteur de l'histoire et triomphe de la démocratie libérale. Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'augmenter les dépenses militaires. Ce qu'on appelle les réalistes, ceux qui n'accordent aucune confiance aux autres puissances et qui s'inquiètent de la dépense militaire, semblent avoir alors perdu la bataille idéologique contre ce qu'on appelle les libéraux, qui croient à un monde régi par le dialogue.
Et puis, dans les années 2000, les choses s'inversent, d'abord lentement.
Oui, la menace terroriste et la déstabilisation de pays aux portes de l'Europe justifient au moins un maintien des dépenses militaires jusqu'aux annonces de ce matin. Hausse très nette, qui n'est pas propre d'ailleurs à la France. Tous les grands pays connaissent un tel regain dans les dépenses militaires, attestant sans doute possible de la fin de la parenthèse libérale qui est née de la chute du communisme.
C'est donc le nouvel ordre du monde qui impose de faire de l'armée une priorité aujourd'hui, Général Desportes.
Ah non, je dirais que c'est le nouveau désordre du monde.
Oui,
et vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui n'est plus régulé. La puissance régulatrice, la première puissance régulatrice, les États-Unis ne régulent plus le monde et ont perdu leur légitimité à le faire. Aujourd'hui, les États n'ont plus, on n'est plus dans une guerre entre États, on est dans des guerres entre parcellisées qui va mettre en jeu de multiples petits groupes d'hommes et de femmes qui ont des intérêts politiques différents.
Donc on est partout en fait, on est présent sur de nombreux territoires. D'opération.
Exactement. Ouais. Donc, je crois que l'illusion de 88, vous l'avez dit, c'est l'illusion de la fin de la guerre. Et hélas, et je suis mille fois triste de ça, mais la guerre sera tant que les hommes seront. Et donc, il est du devoir des nations de préparer la défense de leurs citoyens. Le général de Gaulle disait même que c'était la première mission de l'État.
Franck Cognard.
Mais ça, c'est quelque chose qui se voit dans cette loi de programmation militaire. Ces nouveaux enjeux à prendre en compte. Il y a d'abord la hausse du budget consacré aux opérations extérieures et aux missions de sécurité intérieure, donc Sentinelle et, en gros, pour faire simple, Chamal en Irak et en Syrie et Barkhane au Sahel. Oui. Aujourd'hui, le budget pour ces opérations-là, c'est 450 millions d'euros sous-budgétés dans la loi de programmation militaire précédente. Là, le niveau va monter jusqu'à 1 milliard, c'est-à-dire à peu près ce qu'elle coûte aujourd'hui par an. Et puis, sur les recrutements qui vont se faire, parce que cette loi de programmation militaire prévoit 6000 recrutements d'ici 2025. La moitié sont consacrés à ces nouveaux enjeux, c'est-à-dire la cyberdéfense et puis le renseignement, qui est une part très importante aujourd'hui dans la composante armée.
Merci Franck Cognard, spécialiste des questions de défense à France Info. Thomas Negaroff également avec nous. Merci à vous, général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, et Jacques Bessy, président de l'association de défense des droits militaires. Je voudrais citer un livre que vous avez publié aux éditions de l'Armatan. C'était en mars dernier, ça s'intitule « Servitude et souffrance militaire dans les armées françaises au XXIe siècle ». On est en plein dans le sujet. Merci à vous d'avoir participé à ce débat sur France Info.